Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui c'est un grand jour pour toute notre communauté et je voulais partager cela avec vous parce que je sais que plusieurs d'entre vous êtes au courant de ce qui s'est passé et je voudrais vous donner en grande ligne quelques nouvelles. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir ou peut-être vous ne savez pas, mais le 27 juin 2014, une prophétie a été donnée par un de nos frères de la communauté. Et cette prophétie a créé une division. Presque la moitié de la communauté a suivi cet homme qui a prophétisé, et cela a créé une division. Et ces gens-là voulaient vivre leur vie communautaire en même temps que nous, mais à part nous. Et ça nous menait une vie très difficile. C'était très pénible. Donc ça, c'était le 27 juin 2014 que ça a commencé. Et je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que le 27 juin 2019, nous avons réussi à vendre le château. C'est fait, c'est terminé. Alors maintenant, tous ces gens qui ont suivi cet homme qui prophétise, eh bien, ils sont tous dans leur pavillon, dans leur appartement, il n'y a plus de communauté qui existe avec ces gens-là. Par contre, nous, notre communauté, elle existe toujours. C'est-à-dire que les gens qui ont continué à croire dans mon ministère nous ont suivis. On est partis dans le sud-ouest où nous avons donc loué plusieurs maisons et nous vivons là en communauté. Vous voyez comme c'est bizarre, le 27 juin 2014, le 27 juin 2019. Ça, c'est des petits clins d'œil de Dieu. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que quand c'est arrivé, nous avons donc essayé de discuter avec eux, leur disant, ce qu'on peut faire, c'est que vous gardez le château, vous l'achetez, et puis voilà. Et ils n'ont pas voulu, ils ont voulu rester dans ce château, alors qu'ils n'avaient que 3 parts sur 60, hein, c'est une SCI. Et nous, on a dit, on part, mais par contre, puisque vous ne voulez pas racheter le château, nous, on s'en va, mais on le met en vente. Et ils étaient d'accord, donc on a signé les papiers, tout était fait dans la paix, chez le notaire, tout s'est bien passé. Et toute la communauté qui me suivait, on est parti donc dans le sud-ouest et Michou et moi, nous sommes arrivés donc le 18 juin 2016 et j'ai donné une prophétie qui se trouve aussi dans la Bible qui dit « La première année, tu mangeras le fruit qui est tombé, la deuxième année, tu mangeras ce qui pousse tout seul, c'est-à-dire de l'amertume. » Et la troisième année, tout ce que tu feras, tout ce que tu sèmeras, tout ce que tu planteras, eh bien, tu le moissonneras. Donc, 18 juin 2016, nous arrivons dans le sud et nous avons une magnifique maison, tout va bien avec piscine, tout ça, le Seigneur nous a gâtés. Exactement 3 ans après, le 18 juin 2019, nous avons reçu la certitude officielle que le château était vendu. Vous voyez, 18 juin, exactement pile 3 ans, comme le Seigneur me l'avait montré. Voilà, alors que quand quelqu'un prophétise, il faut que ce qu'il prophétise se réalise. Si ça ne se réalise pas, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Vous avez Jonas qui a prophétisé quelque chose, et puis ensuite il s'est révolté parce que ça ne s'est pas accompli, il n'a rien compris, le pauvre. Mais voilà, nous devons être sérieux dans les choses de Dieu, et c'est ce que nous sommes appliqués à faire. Et Dieu a béni, maintenant ça y est, nous sommes sur le point d'acheter quelque chose que nous avons trouvé qui est très beau, et on vous tiendra au courant, je vous montrerai des photos, et puis vous verrez, c'est encore plus beau que le château. Ah oui, parce que quand on laisse quelque chose comme ça, c'est pas pour redescendre plus bas, pour faire moins bien, non, avec le Seigneur Jésus, c'est toujours en marche de progrès en progrès. Et je vous encourage ce matin, si vous êtes dans les difficultés, ne baissez pas les bras, faites ce que vous avez à faire, dans la plus grande égalité, mais avec la prière, avec le jeûne, et le Seigneur vous donnera mieux encore que ce que vous, entre guillemets, perdez. Voilà, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet un peu spécial, un peu scabreux, qui est peu abordé dans les milieux chrétiens, c'est au sujet de Judas. Pourquoi est-ce que Judas a vendu Jésus. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie, je te demande de bénir les paroles que je vais dire et que cela puisse aider mes frères et sœurs à bien comprendre des choses qui restent un peu dans l'ombre et qui ne sont pas souvent enseignées dans les églises, pour ainsi dire jamais. Merci Jésus de m'aider à le prêcher, d'aider chaque auditeur à bien le comprendre. Amen. Alors, est-ce que la trahison de Judas faisait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité? Ça va peut-être en choquer quelques-uns qui vont venir sur Révélation Bible pour écouter ce message, mais oui, il fallait que quelqu'un livre Jésus aux religieux fanatiques afin qu'il soit crucifié et qu'ainsi il meure à notre place, sacrifié. Il fallait quelqu'un. C'est la petite histoire dans la grande histoire, si vous voulez. C'est épouvantable à dire, mais maintenant je vais développer, je vais vous faire comprendre. Avant même sa naissance, avant même la naissance de Judas, le prophète Zacharie a prophétisé que le prix estimé pour vendre Jésus était de 30 sicles d'argent. Vous trouvez ça dans Zacharie 11, 12 et 13, dans le chapitre 11, versets 12 et 13. Prenez des notes, vous allez les lire après. Et on lit dans Matthieu 27, verset 9, on lit dans Matthieu 27, 9, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris 30 pièces d'argent, la valeur de celui qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. » Alors, pourquoi est-ce que, on dirait que Matthieu se trompe, mais il ne se trompe pas. C'est Zacharie qui a prophétisé ça, mais il dit que c'est Jérémie. Pourquoi ? Je vous explique. Il ne se trompe pas, Matthieu, en disant que c'est Jérémie. En fait, cette prophétie de Zacharie faisait partie d'une compilation de livres prophétiques qui avait pour titre « Livre de Jérémie ». Voilà, c'est pour ça que Matthieu dit Jérémie. Mais en fait, il y avait Jérémie, il y avait Esaïe, il y avait Zacharie, il y en avait plein d'autres dans une compilation de livres prophétiques. Et voilà, et tout le monde était au courant à l'époque. Bon, maintenant, ces choses-là sont différentes, mais à l'époque, c'était comme ça. Je vous invente pas ces choses. Tous les commentateurs bibliques le savent et le disent. Matthieu se trompe pas. Il cite donc un livre talmudique qui commencez par Jérémie. Matthieu ne cite donc pas Zacharie, mais Zacharie se trouve dans le livre de compilation d'écrits de prophètes. On appelait ce livre de compilation le livre de Jérémie. Voilà, je pense que vous avez saisi. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y en a qui s'amusent à dire que c'est une contradiction. Ça n'en est pas une. Il faut simplement connaître un petit peu l'histoire et connaître les us et coutumes des gens de cette époque. Ah, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je cherche à vous dire, c'est que la somme même de 30 pièces a été prophétisée, bien avant que Judas ne livre Jésus contre 30 pièces. Vous voyez ? Donc c'est une chose que Dieu savait. Dieu savait que Jésus serait vendu par un traître. Mais quelle sorte d'homme était ce Judas ? Alors il avait été choisi par Jésus pour faire partie des 12. Ça on trouve dans Jean au chapitre 6 et au verset 64. Alors je lis Jean 6, 64. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, c'est Jésus qui parle, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Donc, vous voyez, Jésus était au courant, il n'a pas été surpris, il n'a pas dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est épouvantable, il me trahit, c'est affreux. » Non, Jésus est Dieu, et il sait tout. Nous, par contre, nous ne savons pas tout, et il peut arriver que dans nos relations, dans les gens qui sont proches de nous, il y ait des traîtres, des gens qui nous trahissent. Là, dans notre cas, ça faisait 30 ans qu'ils étaient avec nous, on avait pris soin d'eux, on les avait trouvés, ils étaient dans leur péché, dans leur truc et tout. Et ils ont fini par nous trahir. Maintenant, Dieu sait tout parce qu'il est Dieu. ce qui est important, c'est de comprendre ça. Dieu sait tout parce qu'il est Dieu. Et parce qu'en réalité, c'est lui, excusez-moi d'expression, mais c'est lui qui tient les ficelles. Le diable, qui cherchait à détruire Jésus, en fait, ce pauvre diable, il faisait une œuvre qui lui a causé le plus grand tort, parce que Jésus, mourant sur la croix, a porté nos péchés, nous a délivrés de la puissance de Satan, et c'était ça, en fait, ce qu'il fallait. En fait, c'était dans le plan de Dieu, et le diable a fait une œuvre, comme d'habitude, le diable se trompe toujours. Pourtant, il a les Écritures, mais il ne les comprend pas, comme beaucoup de religieux. Jésus a dit qu'il était venu sur la terre pour ça, pour donner sa vie sur la croix, pour mourir sur la croix, afin que nous puissions être pardonnés, purifiés, guéris, protégés, enfin remis en relation avec notre Père Céleste. Afin que, en fait, les prédestinés au salut soient sauvés, puis que les autres soient perdus. Parce que, comme il est écrit, et je vous ai enseigné ça il n'y a pas longtemps, Dieu a même créé le méchant pour le jour de la perdition. Voilà, c'est comme ça. Je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai expliqué comment Dieu veut se débarrasser de certaines choses, du mal, parce que Dieu avait la connaissance du bien et du mal bien avant la création du monde, et il a voulu se débarrasser de cette partie, le mal, il a voulu s'en débarrasser, donc il a créé quelque chose dans la matière, et toute cette histoire qui se vit sur la terre, c'est justement pour que on en arrive au point où Dieu se débarrasse du mal. Et en tant que serviteur de Dieu, vous et moi, nous sommes des chrétiens, nous avons à lutter contre le mal. Hein? Voilà, c'est ça le grand plan. Et Judas, lui, il était un des perdus. Il était un perdu. Quand on lit ce que Jésus dit, on l'apprend. Si on ne lit pas ce que Jésus dit, on ne le sait pas. Puis alors on dit oui, mais alors pourquoi il a livré Jésus? Alors, parce qu'il c'était... Il n'appartenait pas à Dieu. Jean 6, 70, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas, l'un de vous a un démon, mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer, lui, l'un des douze. Vous comprenez? C'était un démon. Alors, voilà, ça peut vous paraître étrange, bien sûr, parce qu'on ne prêche jamais ces choses-là dans les églises, ça fait peur. Ah bon, un homme qui a un démon, oui. Jésus l'avait choisi pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Et lors du dernier repas, Jésus a dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » On pourrait même penser qu'il l'a encouragé à aller le vendre. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et Judas, c'est écrit, il est sorti de la pièce pour aller rejoindre les religieux, pour leur livrer Jésus. Alors dans l'évangile de Marc, il n'est pas dit que Judas a demandé de l'argent pour livrer Jésus. Marc dit que les religieux lui promirent de l'argent, mais Judas l'a accepté. Hein. On peut le lire, c'est pas. On a le temps, hein. On peut le lire, c'est dans Marc. Au chapitre 14, versets 10 et 11, Marc 14, 10 et 11, Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et ils promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait donc une occasion favorable pour le livrer. Voyez. C'est Matthieu qui précise que Judas demanda de l'argent. On peut le lire. On peut le lire dans Matthieu chapitre 26, versets 14 et 15. Matthieu 26, 14 et 15. Voyons. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ?» Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, Judas chercha une occasion favorable pour le livrer. Alors pour moi c'est simple, ça ne se contredit pas. Ils lui ont promis de lui donner de l'argent. Bon, voilà, parce qu'il l'a demandé. En fait, il a demandé du pognon. Ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Enfin, voilà. C'est infernal, mais c'est comme ça. Marc nous dit que Judas était allé vers les religieux pour livrer Jésus. juste après l'histoire de la femme qui avait oint la tête de Jésus avec un parfum de Grand Prix. Vous vous rappelez de ça, cette histoire du parfum de Grand Prix? On trouve ça dans Marc 4, Marc 14 plutôt, Marc 14, 4. Alors, je dis, voilà, elle répandait ce parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle fait une bonne action à mon égard. Voilà, puis il continue à parler. Par contre, Jean, vous trouvez ça au chapitre 12, Jean, lui, il dit clairement que c'est Judas. Jean 12, 4. Alors, je trouve le passage. Jean 12, 4. Elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, virgule, Judas Iscariote, virgule, fils de Simon, virgule, donc il appuie bien, celui qui devait le livrer dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et Jean rajoute, il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous voyez, Jean savait que Judas était un voleur et qu'il volait dans la caisse de la petite communauté de Jésus. Il était le trésorier, puis il piquait le pognon. Voilà. Il ne faisait pas que de voler dans la caisse, il avait reçu de la puissance. Jésus nous le dit, pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, mais voilà, il était aussi un voleur. Alors, vous ne vous étonnez pas, vous avez des gens qui sont des prédicateurs, qui font des miracles, des choses extraordinaires, puis après, vous vous apercevez que c'est des voleurs. Ben oui, ça a toujours existé, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait des miracles, on est des voleurs, mais parmi les gens qui sont avec Jésus, vous avez des gens qui sont oints, mais eux-mêmes ils sont faux, voilà ce qu'on appelle des faux oints. Ils ont une véritable onction pour faire des choses de la part de Jésus, mais ils sont eux-mêmes faux, ils sont fourbes, ils sont voleurs, ils sont tout ce que vous voulez. Et ben malheureusement, on en entend beaucoup, on en voit beaucoup, on en voit pas mal. Là, je viens de regarder une vidéo qu'on m'a envoyée de Benny Hill, où il demande pardon d'avoir insisté sur l'argent comme il l'a fait. Il dit, c'est pas biblique, c'est pas juste, j'aurais jamais pu faire ça, je vous demande pardon. Enfin, voilà. Vous voyez, et il y en a plein qui font du pognon avec l'évangile, voilà. Mais voilà, il était un voleur parce qu'il aimait l'argent. Or, la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, 10 ou 16, je ne sais plus, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent. Alors Jésus, parce que bon, moi je veux de l'argent, mais c'est pour faire du bien. C'est pour faire du bien. Par exemple, là, on a notre frère Nicolas, il a apporté des sacs de riz et du tissu à des gens qui avaient dû quitter leur... Le nord du Burkina à cause des terroristes fanatiques, islamistes fanatiques, et il leur a, mais sans argent, comment voulez-vous qu'ils donnent du riz et du tissu pour les femmes pour qu'elles se refassent des vêtements? Comment voulez-vous? Il y a besoin d'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui est pas bon, c'est pas l'argent lui-même. Moi, je pense que vous avez bien compris. Jésus savait ce que le prophète avait dit et écrit, et il savait que ça devait arrivé. Alors on lit dans Jean 13, 27, non, pardon, Jean 13, 16, Jean 13, 16, voyons que je vous le trouve. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas vous de vous tous que je parle, donc il parle aux douze. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Vous voyez, Jésus savait que celui qui partageait son pain avec lui à table depuis des années, il savait que c'était un traître. Voilà, il le savait, et ça les, ça, quand, Jésus, quand Judas a trahi Jésus, ça ne l'a pas surpris, parce que Dieu sait tout, nous on ne sait pas tout, mais Dieu lui sait tout, donc il faut faire confiance à Dieu, il faut faire confiance à Dieu, vous avez été trahi, bon ben vous avez été trahi, ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, vous avez perdu des trucs, vous avez perdu... mais Dieu sait tout, gardez confiance en Dieu. Dieu parla donc à son peuple, afin que son peuple soit dans la confidence. Mais les autres... Les incroyants, ils lisent aussi tout ça, et ça les scandalise, et, ou alors ils se moquent, ou alors simplement, ben, ils n'y croient pas, puis voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on serait scandalisé de savoir que Judas était prédestiné à faire ce qu'il a fait? Pourquoi? Dieu est souverain. Jésus, lors de la scène, il désigne celui qui va le livrer. On va dire dans Jean 13... Jean 13, verset 21, « Ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Mais ils ne doutaient pas. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus, parce que vous savez, il mangeait allongé, il ne mangeait pas assis comme nous, hein. Donc il avait la tête sur la poitrine de Jésus, et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Il lui fait signe, demande lui. Et alors ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, c'est qui? Il a demandé discrètement, et Jésus répondit discrètement aussi, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est-à-dire le morceau de pain qui représente son corps, qui est son corps, et le vin qui est son sang. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait ça. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou lui commander de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Et c'est là qu'il est allé livrer. C'est là qu'il est allé livrer Jésus. Jésus donne donc du pain trempé dans le vin. Et Satan entre en Judas. Alors Judas, d'après l'évangile de Jean, toujours au chapitre 17, versets 11-12, il dit, Jésus dit, je ne suis plus, il prie, hein, il parle à son père, il dit, je ne suis plus dans ce monde, mais ils sont dans le monde, il parle de ses disciples, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Vous voyez donc, Jésus savait que c'était Judas, et il l'appelait fils de la perdition. Fils de la perdition. Jean 17, 11, 12, rappelez-vous de ça. Fils de la perdition, ou ivré semé dans le champ de Dieu. Vous vous rappelez, Matthieu 13, 25. Le bon grain sont les fils de Dieu, l'ivré c'est les fils du diable, fils de la perdition. Fils du diable, Matthieu 13, 38. Je ne vous invente pas les choses, je vous montre bibliquement les choses telles qu'elles sont, afin que vous ne vous apitoyez pas sur Judas en disant « Oh, mais le pauvre, peut-être qu'il a voulu obliger Jésus à réagir. » Alors, moi, j'ai entendu ça. Hein, il a livré Jésus aux religieux, puis il s'est dit « Mais Jésus va être obligé de réagir, et puis il va prendre autorité, et puis il va chasser les Romains. » Mais ça, c'est des idées fausses. En général, c'est les films d'Hollywood qui transmettent cette idée. Ou le faux évangile de Judas. Non. Judas, il a fait ça pour le pognon, parce qu'il était un fils de perdition, il était voleur, et Jésus l'avait pris dans son groupe en sachant très bien ce qu'il allait faire. En fait, c'est ce que je viens de vous dire, je l'ai résumé en trois mots. C'était un démon, Jean 6, 70, on l'a lu, c'était un démon incarné. Judas n'était pas un humain venu du Père, son Père c'était le diable. Sinon, vous devez enlever Matthieu 13, 25, Matthieu 13, 38, vous devez enlever ces passages de la Bible et croire que Dieu est le Père de tout le monde. Non, Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il a les siens, il est venu sauver, au travers de Jésus-Christ, il est venu sauver les siens. N'est-ce pas écrit? Oui, ben voilà. Il n'est pas venu chercher ceux du diable, non. Son père, le père de Judas, le diable, il est entré dans son fils pour l'aider à livrer Jésus, le fils de Dieu. Parce que Judas, il avait quand même une chair qui réfléchissait, qui avait des sentiments, et puis, bon, il était, voilà, un petit peu peut-être partagé. Alors le diable est entré en lui pour l'aider à livrer Jésus, le fils de Dieu. Alors quoi? Et alors quoi? Dieu, mes frères et sœurs, faut arrêter d'avoir une espèce d'évangile sirupeux, à l'eau de rose, où Dieu est tout bon, gentil, merveilleux, bleu ciel, et puis, bon, puis alors il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il ne faut pas chercher. Non, 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 non. Dieu fait ce qu'il veut. Par exemple, vous avez dans Exode 4, 21, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, de Pharaon. Je vous lis le texte. Exode 4, 21. Alors, l'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. » Vous voyez, il dit, « Je te donne le pouvoir de faire des miracles afin de convaincre Pharaon de laisser partir ton peuple, mais moi, de mon côté, je vais endurcir son cœur. » Dieu fait ce qu'il veut. On pourrait dire, « Mais alors quoi? Ah, il joue à quoi? C'est faux, c'est pas juste. » Dieu est Dieu. Mes frères et sœurs, aimez Dieu tel qu'il est. Dieu est Dieu, et il sait très bien ce qu'il fait, et même si on ne comprend pas. Par exemple, dans 2 Chroniques 18-22, c'est dit 2 Chroniques 18, écoutez bien. Et Michée dit, donc le prophète, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth dans Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc l'assemblée qui était là devant Dieu, toutes ces autorités, ces puissances, ces dominations qui étaient là devant Dieu, Dieu leur dit, qui est-ce que je vais envoyer pour séduire le roi Akab afin qu'il aille à la guerre et qu'il meure? Et un des esprits vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» Je sortirai, répondit, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Comme Jésus a dit, va, fais-le promptement. Sors et fais ainsi. C'est-à-dire que, je résume, Dieu voulait se débarrasser du roi Akab. Je ne veux pas dire qu'il ne savait pas comment faire, mais il a voulu partager son plan avec ses serviteurs. Et il demande, qui enverrai-je? Et puis il y a un esprit de mensonge qui dit, ben moi je vais y aller, et puis je vais rentrer dans les vrais prophètes, et ils vont tous mentir, ils vont tous raconter n'importe quoi, et le roi va être séduit, puis il ira à la guerre, et comme ça il périra. Et Dieu lui dit, voilà, ça c'est très bien, vas-y, fais-le. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il endurcit Pharaon s'il veut, il envoie des esprits de mensonge s'il veut, et Dieu est Dieu. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête et dans le cœur et que vous aimez Dieu tel qu'il est. Il faut se rendre à l'évidence, Dieu est souverain, il a un plan, on ne connaît pas tout, on n'a pas tout le dossier, on ne sait pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais on peut lui faire confiance. Avoir la foi, c'est ça. Et le pauvre diable et ses démons font des œuvres qui les trompent, et cela pour leur propre perdition. Et la question c'est, y a-t-il possibilité de repentir pour Judas? Ben non, non, il n'y a pas de possibilité. La Bible nous dit qu'il a eu des remords. Matthieu 21, voyons où est-ce que c'est ça. Matthieu 21, 3, 5. Des remords. Matthieu 21, 3, 5. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne référence. Matthieu 21. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais vous trouverez, il a eu des remords. Et Luc raconte dans le livre des Actes des apôtres, il nous raconte ça un peu autrement. Ah, j'aurais quand même bien voulu trouver. Bon, on va regarder Actes des apôtres. J'espère que cette fois je ne vais pas me gourer. Actes des apôtres. Parce que j'ai pris des notes, mais. Actes des apôtres. Chapitre 1, verset 16. C'est Pierre qui parle et qui dit « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé à l'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose est si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akedama, c'est-à-dire le champ du sang. » Voilà, c'est la version de Pierre, c'est ce que Pierre raconte, et il dit « Tout le monde est au courant, tout le monde sait ça, il n'y a pas de problème. » Je crois que j'ai retrouvé le passage que je voulais vous lire tout à l'heure, c'est dans Matthieu 27. C'est dans Matthieu 27, je peux vous le lire. J'espère que ça vous intéresse, moi ça m'a passionné de faire cette étude. Matthieu 27, ma Bible est dans un état, et je crois qu'il va falloir que j'en achète une autre. Matthieu 27, 5. Matthieu 27, 5. 3, verset 3 d'abord. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, c'est-à-dire que Jésus était condamné, pris de remords, il a des remords, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, ça te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent donc les 30 pièces et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé, etc. Vous voyez, il y a deux versions de la chose. Et alors, ça peut troubler. Mathieu raconte... la chose un petit peu autrement que dans les actes des apôtres, mais bon, bon, ça me trouble pas. Dans Matthieu, c'est Jésus va se suicider, pas Jésus, Judas va se suicider. Dans les actes, il semble avoir eu un accident. On dirait qu'il est tombé, puis il s'est cassé son ventre s'est ouvert. Enfin, voilà. Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que Judas n'a pas cru dans la miséricorde de Jésus. Avoir des remords, ça suffit pas. Avoir des remords, ça suffit pas. Pierre, il avait aussi des remords. Il avait renié Jésus 3 fois, mais il s'est repenti. Vous voyez la différence? Judas n'a pas cru au pardon de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Judas n'a pas cru à la miséricorde, au pardon de Jésus. Il n'y a pas cru. En fait, il ne pouvait pas en être autrement. Il était le fils de la perdition. Jésus l'avait dit, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. » Il l'a perdu, parce qu'il était perdu. Jésus ne veut pas sauver ce qui est perdu. Il n'a pas commencé à sauver les démons. Est-ce que c'est injuste de la part de Dieu? Non, je répète encore, non, ce n'est pas injuste de la part de Dieu. On va lire Ésaïe 55, versets 8, 9. 55, 8, 9. C'est Dieu qui parle et qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Paul rajoute encore une touche dans Romains chapitre... Excusez-moi de parler comme ça. Dans Romains chapitre 9, verset 14-20, écoutez ça, c'est très puissant. Il dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce qu'il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. À qui il veut, hein. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, « Pourquoi est-ce qu'il blâme encore alors ?» Car qui est-ce qui peut résister à la volonté de Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Dieu a formé des vases de colère pour les détruire. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dieu fait ce qu'il veut, avec la même masse. Il est le potier, il fait ce qu'il veut. Vous allez chez un potier, vous demandez un pot de chambre, ben il va vous faire un pot de chambre. Vous lui demandez de faire un vase pour mettre des roses, avec la même terre, il vous fait un vase pour mettre des roses. Ben excusez-moi, voilà, c'est comme ça. Le potier fait ce qu'il veut. Dieu est le grand potier, il fait ce qu'il veut. Et nous n'avons pas à contester avec Dieu. Oh, le pauvre Judas, c'est pas juste. Si, c'est juste. Si Dieu dit que c'est juste, point barre. C'est comme ça. Alors, nous qui suivons Jésus, nous ne pouvons être que d'accord avec Dieu. C'est-à-dire être humble, c'est ça aussi être humble. C'est dire, bon ben je comprends pas, ça me dépasse, mais c'est vrai que les voies de Dieu sont différentes des voies, sont beaucoup plus élevées que les voies de l'homme, c'est vrai que ses pensées sont plus élevées que les miennes, faut que j'avoue, je comprends pas tout, mais mon sens de la justice n'est pas celui de Dieu, mais voilà, son sens à lui, c'est mais que Dieu soit loué, c'est lui le maître, c'est pas moi. Moi je suis qu'un vase et lui il est le potier. Voilà, je vais quand même pas contester. Vous avez jamais vu une masse de terre qui dit non, je veux pas faire ce que je veux. Non, on ne conteste pas avec Dieu. Alors pouvons-nous juger ceux qui nous trahissent? Il y a peut-être des gens qui vous ont trahi, et puis, est-ce qu'on peut les juger? Est-ce qu'on peut dire, voilà, bon, bah, puisqu'ils m'ont trahi, c'est les fils de la perdition? Non, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'en savez rien du tout. On n'en sait rien du tout, on ne sait pas. Les traîtres, laissez-les partir avec leurs 30 deniers, point barre. Essayez de vous réconcilier, faites tout votre possible, soyez gentils. Mais ne les accablez pas, mais voilà, il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que les voies de Dieu ne sont pas à nos voies, et puis c'est tout quoi. Il faut être humble. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les Judas deviennent des avantages. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ceux qui vous trahissent, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ça va tourner à votre faveur. Ça va tourner en votre faveur. Peut-être pas tout de suite. Nous, il a fallu attendre 5 ans. Mais ça tourne en notre faveur. Et Dieu est glorifié. Alors, ne jugez pas ceux qui vous ont trahi, pardonnez-leur. Moi, j'aurais envoyé une lettre pour leur dire que je leur pardonnais. Puis voilà. Puis je leur ai aussi dit, si je vous ai choqué, pardonnez-moi. Ils m'ont pas répondu. Ils s'en foutent. C'est leur nature, c'est comme ça. Faut pas condamner les gens. Judas, lui, on sait qu'il est condamné, parce que la Bible nous le dit. Et puis c'est tout, puis c'est pour nous montrer la souveraineté de Dieu. Jésus n'est pas mort par accident. Jésus n'est pas mort parce qu'il y a un salopard qui l'a trahi. Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice. Et pour que ce sacrifice puisse avoir lieu et que ça ne soit pas un suicide, il a fallu qu'il y ait une petite histoire. Et cette petite histoire, elle est vraiment misérable, cette histoire de ce Judas. Voilà. Voilà. Je voulais vous dire ça aujourd'hui, afin que vous ayez la paix dans votre cœur et que ceux qui vous ont trahi, ben vous les pardonniez, et puis c'est tout. Comme moi, je leur ai pardonné aussi. Maintenant, s'ils ne veulent pas de votre pardon, ça, vous vous en lavez les mains. Mais Jésus, lui, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ne veulent pas, ben, qu'ils partent avec leurs 30 deniers, qu'ils les jettent dans le temple, qu'ils achètent un champ, qu'ils fassent ce qu'ils ont. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous faites votre chemin. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a trahi, ben, repentez-vous, n'ayez pas simplement du remords, mais repentez-vous. Hein, vous passez un petit coup de fil, ouais, écoute, mon frère, j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on va redevenir des amis comme avant, et que. Non, simplement, ben, on met les choses à plat, bon, pardonne-moi. Moi, si ceux qui m'ont trahi comme ça me téléphonent ou m'écrivent un petit mot pour dire bon, pardonne-nous, on s'est gouré, je vous pardonne, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis béni, je suis bien, tout va bien, gloire à Dieu, c'est super. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux vous encourager parce que ça arrive souvent hein, que des gens soient déçus, soient trahis, soient abandonnés. Eh bien, que Dieu vous bénisse et vous aide au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu. Que ma prédication puisse aider les uns et les autres à comprendre que tu es le Dieu souverain et que tu fais que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas choqué. Si je vous ai choqué, pardonnez-moi, mais mon ministère, ce n'est pas de vous chatouiller les oreilles, mais c'est de vous dire la vérité qui est écrite. Voilà, moi, je vous ai dit les choses telles qu'elles sont. Écrite. Voilà. Et c'est mon ministère. Des fois, j'aimerais bien pouvoir simplement dire Alléluia, Jésus est bon, il aime tout le monde. Voilà, c'est très flatteur, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Il y a des choses mystérieuses, il faut les comprendre, et quand on les comprend, ben, on est beaucoup plus au clair et on est dans des grandes certitudes. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir, Dieu vous garde.